الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits du mois béni du Ramadan. À ce sujet, l'imam al-Bukhari, dans son authentique, a rapporté que Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lorsqu'arrivaient ces 10 dernières nuits du Ramadan, il avait l'habitude de serrer sa ceinture, de faire vivre ses nuits et de réveiller sa famille. » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, comme nous le dit Aïcha, radiallahu anha, avait l'habitude de serrer sa ceinture, de faire vivre ses nuits et de réveiller sa famille. Tout d'abord, de serrer sa ceinture. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Les savants ont divergé sur la signification de cette expression. Certains ont dit cela veut dire qu'il évitait d'être avec ses épouses pendant les 10 dernières nuits. D'autres ont dit cela veut dire qu'il évitait d'avoir des rapports intimes même pendant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et d'autres ont dit cela veut dire qu'il multipliait et qu'il faisait d'autant plus d'efforts dans les adorations dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Ensuite, Aïcha radiallahu anha disait « Et il faisait vivre ses nuits ». L'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire de l'authentique de Bukhari, explique ce terme. « Il faisait vivre ses nuits », il dit « Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre ses nuits à travers les adorations et les obéissances à Allah azza wa jal. » Il faisait vivre ses nuits, il dit, cet érudit, il faisait vivre ses nuits et il se faisait vivre lui-même en restant éveillé pendant ses nuits. Parce qu'il explique que les nuits, ou plutôt le sommeil, c'est comme la mort. Et le fait d'être réveillé, c'est être vivant. Et donc il explique que le fait de faire vivre ces nuits, on les fait vivre. Déjà nous vivons en étant réveillés, puisqu'en étant endormis, c'est comme si nous étions morts. Mais en étant réveillés, c'est comme si nous étions vivants. Et nos nuits, nous les faisons vivre parce que nous sommes éveillés pendant ces nuits et parce que nous multiplions les adorations pendant ces nuits. Voilà ce que le Aïcha radiallahu anha a voulu dire lorsqu'elle a dit « et il faisait vivre ces nuits-là ». Ensuite, Aïcha radiallahu anha a terminé par dire « et il réveillait sa famille ». Et certes, il réveillait sa famille, mais il les réveillait pour qu'il prie avec lui, pour qu'il veille ses nuits en prière. Et cela apparaît de manière évidente dans une autre version qui a été rapportée par l'imam Tirmidhi, selon Zainab bint Umm Salama, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait aucun membre de sa famille pendant ces 10 dernières nuits, qui avait la capacité, qui avait la force de veiller la nuit, il ne les laissait pas dormir, il les réveillait tous pour qu'ils veillent la nuit. Tous ceux qui en avaient la capacité, il les réveillait. Tout cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait d'autant plus d'efforts pendant ces 10 dernières nuits dans les différentes pratiques des adorations, et en particulier les prières de nuit. C'est donc une sunna, une tradition prophétique que nous devons faire vivre et à laquelle nous devons nous attacher fermement. L'imam muslim rapporte dans son authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans les 10 dernières nuits dans les adorations qu'elle n'avait pas l'habitude de faire dans les autres nuits et dans les autres jours de l'année. Ce qui prouve également, ce qui montre également le mérite de ces 10 dernières nuits par rapport à tout le reste du Ramadan, c'est ce qui a été rapporté dans les deux authentiques par Aïcha radiallahu anha. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude pendant les 20 premières nuits de mélanger et d'alterner entre sommeil et prière. Mais lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits, il retroussait ses manches et serrait sa ceinture. Il retroussait ses manches et serrait sa ceinture. Cela veut dire que non seulement pendant les 20 premières nuits, il avait l'habitude de prier la nuit, mais les 10 dernières nuits, elles étaient d'autant plus multipliées dans les différentes pratiques des adorations et en particulier les prières de nuit. Nous avons donc, mes frères, mes sœurs, dans les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un meilleur exemple et modèle à suivre. Sachez ensuite, mes frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, multipliait ses efforts dans les adorations pendant ces 10 dernières nuits. Il le faisait pour deux raisons. D'abord, pour le mérite qu'il y a dans ces 10 dernières nuits, et ensuite, pour que ces pratiques et la multiplication de ces adorations coïncident avec la nuit du destin, car la nuit du destin se trouve dans l'une des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Cette nuit du destin, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal a dit « Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. » Donc une des particularités des 10 dernières nuits, c'est que une de ces 10 dernières nuits est la nuit du destin. La nuit du destin, comme nous l'avons dit, Allah Azza wa Jalla l'a dit à son sujet, cette nuit est meilleure que 1000 mois. Les anges, ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, les anges ainsi que l'esprit descendent par la permission de leur Seigneur et ils répandent le salut sur terre jusqu'à l'apparition de l'homme. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla dit à propos de cette nuit, nous l'avons révélé en une nuit bénie, c'est-à-dire le Coran. Le Coran a été révélé pendant cette nuit. Nous l'avons révélé en une nuit bénie, la nuit du destin est bénie. Et Allah Azza wa Jalla rajoute, et nous sommes celui qui avertit. Nous sommes celui qui avertit et c'est durant cette nuit qu'est décidé tout ordre sage. Qu'est-ce que veut dire c'est durant cette nuit qu'est décidé tout ordre sage? Les savants nous expliquent que pendant la nuit du destin, Allah Azza wa Jal sépare de la table sacrée tous les destins et tous les événements de l'univers sont inscrits dans ce qu'on appelle en arabe al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Et Allah Azza wa Jal sépare de cette table ce qui va se dérouler pendant cette année qui suit la nuit du destin. Et Allah Azza wa Jal l'explique aux anges. Il explique aux anges tous les événements qui vont se dérouler pendant cette année-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également montré le mérite de cette nuit en disant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan est arrivé à vous. Et il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé, c'est-à-dire celui qui va la laisser passer sans pratiquer et sans multiplier ses adorations, sans veiller la nuit en prière. Celui qui va en être privé est privé du bien tout entier et ne peut en être privé que celui qui est privé de tout. L'imam Nakhiri disait à propos de cette nuit, l'action dans cette nuit est meilleure que l'action dans 1000 autres mois qui ne sont pas cette nuit. C'est-à-dire dans 1000 autres mois, on pourrait pratiquer la même action indéfiniment pendant ces 1000 autres mois. Cette seule action durant cette nuit est meilleure que l'action qui est pratiquée dans ces 1000 autres mois. Ensuite, il faut savoir que le fait de prier cette nuit-là en particulier, efface et absout les péchés, comme cela nous a été rapporté dans les deux authentiques par le compagnon Abu Hurayra radiallahu anhu. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veille la nuit du destin avec conviction et en recherchant la récompense divine, tous ses péchés passés lui sont pardonnés. Et il n'y a aucun doute, mes frères et sœurs, dans le fait que la nuit du destin se trouve dans l'une des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, recherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Et cela, cette nuit, est en particulier dans une des nuits impaires des 10 dernières nuits. Car comme il nous a également été rapporté dans les deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez-la, c'est-à-dire la nuit du destin, recherchez-la dans les 10 dernières nuits et en particulier dans les nuits impaires. » La nuit du destin est donc probablement soit la 21e, soit la 23e, soit la 25e, soit la 27e ou soit la 29e nuit du mois du Ramadan. Ensuite, sachez mes frères, mes sœurs, que les savants ont divergé à propos du fait de cette nuit précisément. Peut-on savoir précisément quelle est la nuit du destin? Et ils ont divergé en d'innombrables opinions. L'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, a indiqué qu'il y avait plus de 40 opinions différentes et il les énumère toutes. Parmi ces opinions, il y a certains savants qui pensent que la nuit du destin, c'est pendant le milieu du mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois du Ramadan. D'autres pensent que la nuit du destin a eu lieu et ne s'est déroulée qu'une seule fois, c'est-à-dire au moment où le Coran a été révélé. Et après cela, il n'y a plus jamais de nuit du destin. D'autres pensent que la nuit du destin change d'année en année. Elle se déplace d'année en année. Et elle se déplace dans tout le mois du Ramadan. D'autres pensent qu'elle se déplace, mais qu'elle ne se déplace que dans les 10 dernières nuits. Enfin, l'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Al-Majmour, explique que l'école de pensée de l'imam Shafi'i consistait à dire que la nuit du destin n'est qu'une seule nuit. Elle ne se déplace pas. Elle est en une nuit bien précise, mais que nous ne la connaissons pas. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, disait que la nuit du destin était probablement la nuit de la 21e nuit ou la 23e nuit du mois du Ramadan. Et il expliquait, l'imam Shafi'i rahmoullah, qu'il l'a cherché en particulier dans ces deux nuits-là et qu'il multipliait encore plus ses adorations pendant ces deux nuits-là parce qu'il était persuadé que c'était une de ces deux nuits-là, la 21e ou la 23e. Cependant, un hadith qui nous a été rapporté, dans lequel le compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que la nuit du destin, c'est la nuit du 27e. Les savants ont indiqué que ce hadith est authentique à une condition, c'est que cette parole, c'est la parole du compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mais ils ne sont pas d'accord sur l'authenticité du fait que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, quand bien même ce hadith serait la parole du compagnon Abu Sufyan, une règle nous explique dans les sciences religieuses que un hadith ou un compagnon donne une opinion dans ce qui concerne les questions du monde de l'invisible, ça ne peut pas être son opinion. Jamais un compagnon ne se permettrait de donner son opinion dans ce qui concerne les questions du monde de l'invisible. S'il le dit, c'est qu'il a eu une information qui lui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu disait que la nuit du destin c'est la nuit du 27e, c'est que cela lui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a d'autres preuves qui tentent à montrer que ce qui est le plus probable, c'est que la nuit du destin, c'est la nuit du 27e. Parmi ces autres preuves, il y a le fait que l'imam Ahmad a rapporté du compagnon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui la recherche la nuit du 27e ». Et ce hadith, quand bien même il a été jugé faible dans sa chaîne de transmission, il y a d'autres chaînes de transmission qui viennent renforcer cette chaîne de transmission, et donc ce hadith est acceptable, selon le savant Al-Bassam. Ensuite, il faut savoir que des compagnons comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui, dans de nombreux événements de sa vie, pendant la vie du prophète, sallam, disait des choses, et le Coran venait confirmer ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait. Il faut savoir que des compagnons, donc, comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ou Hudhayf ibn al-Yaman, à qui le prophète sallam a donné certains secrets qu'il n'a donné à aucun autre compagnon, des compagnons comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Hudhayf ibn al-Yaman et d'autres n'avaient aucun doute dans le fait que la nuit du destin était la 27e nuit du mois du Ramadan. Une autre preuve également qui tend à montrer que la nuit du destin est probablement la nuit du 27e, c'est ce qui a été rapporté dans l'authentique de Muslim. Le compagnon Ubay ibn Ka'b avait l'habitude de jurer par Allah que la nuit du destin, c'est la nuit du 27e, et il y a d'autres preuves qui tentent à montrer que le plus probable, c'est bien la nuit du 27. Malgré cela, nous disons que le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé d'une certaine manière cachée, et il avait l'habitude de la rechercher dans toutes les dix dernières nuits, et il nous ordonnait, nous commandait de la rechercher dans les dix dernières nuits. Quand bien même il y a plus une probabilité que ce soit la nuit du 27e ou une autre nuit, nous devons suivre le prophète alayhi salatu wassalam est limité dans ses faits et gestes, et nous devons comme lui multiplier nos actions et nos adorations dans toutes les dix dernières nuits du mois du Ramadan et la rechercher dans les dix dernières nuits du mois du Ramadan. Et enfin, le prophète alayhi sallam enseignait à son épouse Aïcha radiallahu anha une doua à dire dans cette nuit si on connaissait la nuit ou dans les dix dernières nuits lorsqu'on la recherche, cette nuit, c'est « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna ».